Bonjour à tous. Une histoire, non pas de la bêtise, mais de ta bêtise, par François Bégodeau, qui s'en prend dans un nouvel essai aux réflexes de classe et aux mots creux d'une bourgeoisie qui refuse toujours de se reconnaître comme telle. L'écrivain, essayiste, réalisateur sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, rendez-vous avec la pianiste Claire-Marie Le Guay, auteur à l'automne dernier de La vie est plus belle en musique, qui paraît chez Flammarion. Elle se produira mercredi en ouverture de la folle journée de Nantes, le rendez-vous des passionnés de classique à écouter jusqu'au 3 février. Pour l'heure, Claire-Marie Le Guay est avec nous tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Avec nous en direct de Nantes dans les studios de nos confrères de France Bleu, Claire-Marie Le Guay, bonjour.
Bonjour Olivia Jesbert.
Bonjour. À la folle journée où vous interpréterez ce mercredi le concerto en sol majeur pour piano et orchestre de Maurice Ravel avec le Sinfonia Varsovia. Alors Ravel, Saint-Saëns, Mendelssohn, Berlioz ou encore Mozart, ça c'était des grands voyageurs, des compositeurs qui aimaient voyager, qui étaient presque itinérants. Mais Ravel, comment s'inscrit-il avec ce concerto dans la thématique cette année de la folle journée de Nantes, du carnet de voyage?
Oui, alors c'est une très belle thématique qui effectivement est le reflet des inspirations que les compositeurs ont pu puiser à travers leurs voyages. Dans le cas de Ravel et du concerto en sol, cette inspiration est une inspiration du jazz que Ravel a découvert aux États-Unis lorsqu'il était en tournée. Et c'est une œuvre tout à fait particulière parce que d'abord c'est une des dernières œuvres que Ravel a écrites. Et vous savez, on connaît le côté très méticuleux, très soigneux, très pointilleux presque de Ravel, qui est d'une précision extrême dans son écriture. Et dans ce concerto, il y ajoute le blues, il y ajoute des jeux rythmiques un peu décalés, une inspiration qui est vraiment nouvelle dans son œuvre. Donc c'est tout à fait intéressant. Et il était tellement attaché à cette œuvre qu'il voulait lui-même la créer, il voulait lui-même jouer le concerto. Il l'a d'ailleurs beaucoup travaillé. Et puis finalement, se sentant un peu malade et fatigué, il a décliné et c'est Marguerite Long qui a créé le concerto. Mais elle raconte qu'il l'empêchait presque de travailler tellement il l'appelait souvent, il la sollicitait pour lui parler de l'œuvre, pour lui parler de l'interprétation de l'œuvre. Et elle dit elle-même que voilà, parfois elle était envahie par les demandes de Ravel au sujet de l'interprétation.
Alors ce concerto, vous l'avez enregistré, Claire-Marie Le Guay, avec l'Orchestre Philharmonique de Liège sous la direction de Louis Langrais, dans un album Ravel Schulhof Concerto pour piano et orchestre paru chez Decca en 2005. On en écoute un extrait. Ravel fait partie, Claire-Marie Le Guay, des compositeurs qui comptent pour vous?
Oui, essentiellement. C'est vrai qu'en plus, il y a ce rapport de langue maternelle, je dirais, avec la musique française, avec la musique de Ravel en particulier. Mais voilà, il y a dans ces tonalités, dans ces harmonies, quelque chose qui fait partie de nous, de notre langue. Alors ce mouvement que nous écoutons est tout à fait particulier, hein, c'est vraiment une page unique dans l'histoire de la musique. C'est le deuxième mouvement du concerto en sol et le piano démarre comme ça tout seul pendant longtemps et déroule cette phrase extraordinaire que Ravel a écrite en hommage à Mozart. Alors il a écrit lui-même qu'il avait le sentiment de choisir chaque note et d'écrire ce mouvement mesure par mesure. Et donc il y a quelque chose voilà de très particulier, de très intime, de très tendre, de très révélateur finalement dans cette musique si éloquente.
En hommage à Mozart, qu'est-ce qu'il voulait lui dire ?
Peut-être rejoindre une forme de simplicité dans le sens le plus noble du terme, une simplicité de l'essentiel. Peut-être, je pense, de la lumière et de l'essentiel.
Dans La vie est plus belle en musique, qui apparu chez Flammarion, Claire-Marie Le Guay, vous racontez que certains lieux demandent plus d'efforts que d'autres, aux musiciens comme au public. Il incombe aux musiciens de savoir répondre aux circonstances acoustiques, qu'il faut aussi, sur le moment, s'ajuster, passer de l'oreille intérieure à l'oreille extérieure et développer son sens critique pour atteindre peu à peu ce qu'il cherche. C'est-à-dire que vous devez vous adapter à chaque lieu où vous allez jouer. Alors là, vous allez jouer où quand vous serez à Nantes?
Oui, alors je peux déjà revenir sur ce sujet-là dans les jours des deux jours qui viennent de s'écouler, parce que j'ai joué à la Folle Journée en région, donc effectivement je vais jouer à la Folle Journée de Nantes après-demain, mais vraiment c'était les quatre concerts que j'ai donnés en deux jours, donc deux concerts samedi, deux concerts dimanche en région, à Saumur, à La Roche-sur-Yon, à Laval, à La Fontenelle, étaient vraiment le reflet de cette expérience de finalement donner quatre fois la même heure dans quatre lieux différents auprès de quatre publics bien évidemment différents, et de cette adaptation selon le lieu, selon l'ambiance du lieu, selon l'acoustique du lieu, selon le piano, qui était donc quatre pianos différents. Et c'est vrai que on perçoit encore mieux quand c'est si proche à quel point chaque concert est unique. Et là, c'était d'autant plus flagrant que ces concerts ont lieu avec le Symphonia Varsovia, qui est un magnifique orchestre dirigé par Mihail Gertz, un jeune chef d'orchestre tout à fait extraordinaire. Et il y avait aussi cette création finalement de l'événement qu'est le concert à 63 musiciens, si on comprend le chef et le soliste. Donc voilà, une soixantaine de personnes dans des lieux différents et où chaque instant, chaque concert, chaque événement est unique. Et c'est vraiment une expérience tout à fait extraordinaire.
Et puis vous dites aussi qu'au contact des œuvres, on ne cesse d'ouvrir de nouvelles portes, de vivre de nouveaux commencements. Et est-ce qu'il y a une œuvre toute particulièrement que vous avez le sentiment de redécouvrir presque à chaque fois ? Est-ce que c'est le cas, par exemple, pour ce concerto de Ravel ? Est-ce qu'il y a certaines œuvres particulièrement qui vous interrogent et que vous avez le sentiment de redécouvrir dès que vous les interprétez ?
Alors je pense que c'est valable de toutes les œuvres. Hein. C'est cette chance extraordinaire, cette difficulté aussi, cette exigence de la musique qui est de toujours repousser plus loin les limites, de toujours remettre les choses en question finalement pour se rapprocher le plus possible de ce que le compositeur a voulu transmettre ou de ce qu'on pense comprendre de ce qu'il a voulu transmettre. Mais c'est vrai que, alors il y a des œuvres avec lesquelles l'attachement est le plus fort. Ce concerto en sol fait partie de moi depuis presque toujours. En fait, c'est une des premières œuvres que j'ai jouées en public, un des premiers concertos que j'ai joué. Et il y a ce rapport, d'une sorte de d'intimité profonde entre chaque note finalement, qui sur laquelle j'ai travaillé, retravaillé, qui sont empreintes de cette magnifique rencontre avec Louis Langré, avec qui effectivement j'ai beaucoup travaillé cette œuvre que nous avons enregistrée ensemble, puis beaucoup joué ensemble. Et donc, vous savez, c'est un peu comme un vin qui est fait, d'une maturation d'années, du travail des hommes, du travail de la terre, du temps qui passe. Je pense que le rapport aux œuvres musicales est comparable à cela.
Alors on va aller vers un autre compositeur, c'est Schubert. Vous louez trois compositeurs particulièrement, vous affectionnez dans ce livre « La vie est plus belle en musique », Schumann, Mozart et Schubert, dont vous appréciez tout particulièrement la musique pudique et tragique. On va écouter un extrait de votre dernier album, Schubert, Wanderer, avec le violoncelliste François Salk. Et c'est une sonate pour violoncelle et piano. On écoute. Thank you. Belle interprétation, Claire-Marie Leguet, de cette sonate, hein, Arpeggion de Schubert, extrait de votre dernier album paru chez Mirare en 2018. Alors pourquoi Schubert ?
Ah, Schubert parce qu'il nous atteint tout de suite. Il nous livre le tragique avec une pudeur extraordinaire. Schubert ne s'apitoie jamais sur son sort. C'était vraiment un personnage qui a eu une vie difficile, hein. Il avait un physique ingrat, des amours impossibles, des amours complètement idéalisés, malade, il meurt jeune, très pauvre. Vraiment, c'est le portrait type de l'artiste qui souffre. Et sa musique, à la fois, nous raconte cela, et en même temps, elle nous livre avec une humilité, avec une pudeur, avec une sensibilité qui nous émeut sans jamais s'apitoyer. Et je pense qu'il a ce message est tout à fait particulier et j'y suis très très attachée. Et c'est vrai que là, dans l'enregistrement, la voix du violoncelle, le beau violoncelle de François Salk, nous parle avec beaucoup de chaleur. Je pense que ça fait partie aussi de cet attachement à cette musique, c'est la relation à la voix. En fait, Schubert, bien sûr, qui a écrit tous ces nombreux leaders et qui était si attaché à la poésie, au sens des mots et à la voix humaine.
Dans cet ouvrage, La vie est plus belle en musique, vous rappelez l'importance de connaître ces classiques. Et d'ailleurs, à travers ce livre, vous racontez votre relation à la musique, votre histoire de la musique, mais aussi, un peu plus largement, une histoire de la musique et du piano, votre instrument. Parmi les compositeurs d'aujourd'hui, parce qu'il est important, rappelez-vous aussi, de rester sensible à la musique vivante, il y a notamment l'organiste Thierry Esquèche qui nous disait, autour de cette grande table, le talent du compositeur, c'est de rendre intelligible l'expérience sensible. Est-ce que vous diriez de même pour l'interprète ?
C'est magnifique cette phrase. Je pense que le rôle de l'interprète, c'est d'abord de donner à connaître les œuvres. Je pense que c'est le premier rôle. Et puis de trouver cet équilibre entre les émotions et la pensée, de rendre intelligible, effectivement, comme le dit Thierry Esquèche, une sensibilité qui n'est pas la nôtre en premier, qui est celle du créateur, du compositeur, mais qui passe à travers le filtre de notre personnalité. Donc c'est un équilibre très subtil, à la fois de se révéler, mais sans se mettre au premier plan, puisque c'est vraiment le texte du compositeur que nous sommes là pour le traduire. En fait, nous sommes là pour le passer, pour le donner, pour le transmettre à ceux qui l'écoutent.
Le compositeur et pianiste Michel Legrand, qui nous a quittés dans la nuit de vendredi à samedi, avait lui ouvert aussi ce champ musical, hein, en se tournant à un moment résolument vers la composition de musique de film, tout en ayant commencé à la fois par la variété, le jazz, le classique. Il avait un peu emprunté à tous les genres. Il voyait aussi, comme vous, dans la musique, ce mystère, hein, qui s'organise aussi un peu malgré soi et qui nous permet de transmettre des émotions qu'on pourrait dire autrement, et notamment le bonheur. Ça, c'est un compositeur qui a compté pour vous, Michel Legrand?
Alors, pas tout à fait directement, parce que c'est vrai que je n'ai pas joué ses œuvres, je ne l'ai jamais rencontré. Je pense que voilà, il est incontournable, tellement ses musiques sont liées à de nombreux films. Mais j'aime cette relation du travail avec les compositeurs de façon générale, parce que c'est tout à fait extraordinaire de savoir qu'on peut s'adresser à eux pour comprendre mieux le langage qu'ils ont transmis, qu'ils ont voulu raconter à travers leur musique. On peut leur poser les questions qu'on ne peut plus poser aux compositeurs qui ne sont plus de ce monde, et puis sentir que cette musique est vivante. En fait, je pense que c'est une chance extraordinaire d'avoir cette relation de rencontre avec la musique, et je recommande vraiment au public d'aller vers cette musique dite contemporaine, parce qu'elle fait partie de notre époque, elle est de notre temps, et de la voir naître, de l'entendre naître, assister à une première. C'est une expérience unique, parce que finalement on fait naître cette œuvre en l'écoutant, en étant présent, on la rend vivante, on assiste à sa naissance. Et en tant qu'interprète, ce travail avec les compositeurs, c'est se confronter finalement à l'idée, à l'oreille intérieure, à l'écoute intérieure des compositeurs, et à cette idée à la fois très précise qu'ils ont, et aussi souvent qui laisse la porte ouverte à la place de l'interprète. Et selon les compositeurs, selon les tempéraments, cette place de l'interprète peut être définie tout à fait différemment. Henri Dutilleux, par exemple, avec qui j'ai eu l'honneur et la chance de travailler, avait une oreille interne d'une précision extraordinaire, à tel point que vraiment les couleurs de son étaient d'une précision comme celle de transcrire un corps bouché, un corps auquel on aurait mis une sourdine. Donc voilà, transmettre avec le piano des sonorités d'orchestre. Thierry Esquèche a une autre façon de s'exprimer autour de sa musique. Il donne les grands axes, les grands sens, et dit d'ailleurs à travers ces grandes directions qu'il donne, laisse l'interprète plus exactement prendre possession de l'œuvre. Et voilà, c'est très intéressant d'explorer cette relation au texte, cette relation à la musique, à l'instrument, à l'écoute.
Alors, la relation à l'instrument, justement. Écoutez ce que Michel Legrand répondait en 2014. C'était une question d'Alain Crugère pour un avoine nue qui lui était consacré sur son souvenir, le souvenir de son premier piano. Est-ce qu'il s'en souvenait, sa réponse?
Comment l'oublierais-je? Il était épouvantable, il était vieux, mauvais, il sentait mauvais, il jouait pas juste, et il avait fallu... Mais c'était un piano, et c'était le seul dont je pouvais disposer. Donc j'ai pas eu le choix, et ça a été mon ami de ma petite enfance. Vous savez, je m'ennuyais beaucoup, c'est-à-dire que je détestais le monde des enfants, je détestais. Et je n'aimais pas beaucoup non plus le monde des adultes. Alors j'étais tout seul, je m'enfermais dans la pièce où il y avait le piano, et je passais même ma journée avec le piano. Et alors... Ma vie a commencé quand j'ai eu 10 ans et que pour la première fois j'entrais au conservatoire, rue de Madrid, et j'entre dans une maison où on ne fait que de la musique partout. Voilà le monde où j'avais envie de vivre, pas ailleurs.
Alors vous êtes d'une famille de mélomanes, Claire-Marie Le Guay, le piano, votre premier piano, il a toujours été au milieu du salon ou il a été acquis pour vous?
Non, alors c'est vrai, d'abord c'est très très émouvant d'entendre la voix de Michel Legrand, et Et j'ai l'impression de vivre, en fait, chaque mot, chaque phrase de ce qu'il a dit, de l'avoir vécu de la même façon. C'est vrai que l'odeur du piano, il dit que le piano sentait mauvais. Et c'est vrai que cette odeur de feutre, moi aussi, j'avais un piano, c'était un piano droit, hein, qui était blanc d'ailleurs, et qui n'était pas particulièrement un bon piano, ni un mauvais piano, mais c'était mon ami, c'était mon complice, c'était mon confident, c'était avec lui que, effectivement, je me sentais le mieux. Et ce qu'il dit de ce monde dans lequel la musique est partout, où tout le monde fait de la musique, voilà, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait cela. Et moi, j'ai un autre souvenir qui est d'avoir été l'été dans des stages de musique, notamment à Flaines, et qui était transformée en ville de musique pour les enfants, pour les étudiants, pour tous ceux qui voulaient faire de la musique. Et je passais mes journées soit à travailler mon piano, à écouter des concerts, à assister à des masterclass, et la musique résonnait partout. Et voilà, et je pense que pour les musiciens, que la musique soit présente partout est essentiel.
Alors vous citez à la fois Gustave Mahler qui disait que l'essentiel de la musique n'est pas dans les notes, et on comprend qu'avec vous aussi, et Mahler, les silences ne sont pas accessoires, mais vous citez aussi, pour parler de votre instrument, dont vous racontez la complicité que vous avez pu développer avec lui au fil des années comme à l'instant, vous citez aussi un sculpteur, Rodin, qui appelait à rendre la main docile à tous les ordres des sentiments. C'est intéressant de rapprocher les mains du pianiste à celles du sculpteur. Est-ce qu'elles ont les mêmes fonctions pour vous, vos mains, quand elles sont devant un piano?
Je pense qu'il y a, en tout cas comme point commun, un travail de la matière. C'est-à-dire que les mains, finalement, changent. Et on a cette sensation de leur donner une forme, ou qu'elles prennent elles-mêmes une forme différente selon les œuvres que l'on joue. Même physiquement, ça se voit, ça peut se remarquer. En fait, elles peuvent développer une finesse, ou alors développer une force, une amplitude, une largeur, une puissance selon les œuvres que l'on travaille, que l'on joue. Donc, il y a ce rapport à la matière. Et puis, il y a cette image aussi. Vous savez, les sculpteurs, en fait, quand ils font un relief d'un visage, quand ils veulent dessiner les contours du visage, rajoutent de la matière. Ne creusent pas, ils rajoutent. Mmh. Et je pense souvent à cela avec le son. C'est-à-dire que finalement, c'est plus intéressant de chercher le relief du son en ajoutant du timbre, en ajoutant de la présence, en ajoutant du grain sonore, plutôt qu'en enlevant. Et même un piano, une nuance piano, une nuance douce, une nuance pianissimo, c'est encore plus piano, encore plus doux, encore plus secret que moins, finalement. Et d'où cette image de la relation au travail des mains et au travail de la sculpture, comme la sculpture du son.
On a ouvert avec le concert que vous donnerez mercredi dans le cadre de la folle journée de Nantes, mais oui. On peut aussi parler des enregistrements que vous avez réalisés. Et vous racontez bien la différence de perception, alors à la fois quant à l'instrument, hein, sur ce piano, le piano de travail que vous pouvez avoir chez vous, et puis les pianos de concert qu'on vous prête et auxquels il faut aussi s'adapter. Vous avez enregistré plus d'une vingtaine d'albums, si mes comptes sont bons. Les enregistrements, écrivez-vous, ont permis de mesurer combien la personnalité unique d'un musicien et son lien exceptionnel avec une œuvre peuvent laisser leur empreinte. Fixée par l'enregistrement, une grande interprétation peut devenir une référence. Alors vous me voyez arriver, est-ce que l'une de vos interprétations fait déjà référence? Et si oui et sinon, est-ce que c'est quand même l'objectif, le rêve de tout interprète?
Oh là là, alors je serais bien incapable de répondre à la première question. Quant à la deuxième, non, je pense pas que ce soit l'objectif quand on enregistre. J'ai l'impression que le sens de l'enregistrement est là lorsqu'il devient une chose essentielle pour l'interprète. En fait, et quand vraiment enregistrer, c'est transmettre un message qu'il faut le faire. Il faut faire cet enregistrement, et après, la vie de l'enregistrement n'appartient plus à l'interprète. Que ça devienne un enregistrement de référence ou non, ça, voilà, c'est pas du choix de l'interprète, bien entendu.
Oui, il faut pas chercher à faire différent pour laisser sa marque, son empreinte, pour autant.
Absolument, je pense que la sincérité et l'humilité sont de vraiment essentiels. Et puis, je pense que l'enregistrement est une chose très très différente du concert, et qu'elle doit être, il doit être abordé de façon très différente. Il y a bien sûr dans l'enregistrement la possibilité de reprendre, de faire des coupures, des montages, mais il faut savoir que si on n'enregistre pas, si on n'a pas enregistré une phrase, on ne pourra pas l'inventer non plus. Et donc, il y a cette recherche de construction à travers l'enregistrement, d'aboutissement, de laisser effectivement cette trace qui ressemble le plus à ce dont on est proche, musicalement et émotionnellement, techniquement, intellectuellement. Et alors que le concert est l'instant. Là, nous parlons de la folle journée, c'est l'instant de fête, c'est l'instant de partage, c'est un rendez-vous incontournable, c'est incontournable cette folle journée qui permet au public de découvrir des répertoires très différents, qui permet de venir en concert peut-être souvent avec des enfants, en famille, parce qu'on a des formats plus courts, donc pour une concentration adaptée à tous les âges.
Et partager voilà. Et connaître la musique, hein. Connaître la musique qui nous relie au monde, vous le rappelez, vous insistez beaucoup sur cette dimension patrimoniale et fraternelle de la musique. Je vous propose, avant de nous quitter, d'écouter ces mots du pianiste Arthur Rubinstein, extrait d'un documentaire qui lui était consacré, L'amour de la vie, sur sa définition de la musique.
You know, when I make music, it is so heavenly. Actually, when I play,
vous savez, quand je fais de la musique, c'est tellement céleste. En fait, quand je joue, je fais l'amour. Il y a un mot secret, un mot étrange, l'âme. Cette âme, ce mot, on le trouve dans chaque langue. Tout le monde l'emploie aisément, et je n'ai jamais réussi à comprendre ce qu'il signifie vraiment, ce qu'est cette âme. Je pose la question aux gens, par exemple au grand monsieur Einstein, le grand mathématicien, à l'inventrice du radium, Madame Curie. Nous en avons parlé ensemble. Ils ne pouvaient pas me donner de réponse. Pas une bonne réponse en tous les cas. Les religions, toutes les religions l'emploient aisément. Et elles ne pouvaient pas du tout me convaincre. J'en suis arrivé au point de croire qu'il s'agit d'une force en nous. Je la découvre pendant les concerts parfois, qu'il y a quelque chose en nous qui est une force, qui a une influence sur les gens. Et l'âme de toute l'humanité, de chacun d'entre nous, est peut-être au fondement de la création, qui sait ?
L'âme de l'humanité au fondement de la création, Claire-Marie Le Guay, vous signez ?
C'est beau.
Ouais, sur ces mots.
C'est beau. Oui, on ne peut rien dire de plus. Rien dire de plus, rien dire mieux que ça.
Alors, moi j'annoncerai juste, oui, en plus, votre concert du 30 janvier à 21h avec le Sinfonia Varsovia. Ce sera donc dans le cadre de la folle journée de Nantes qui débuteront à cette occasion-là à Nantes et qui se poursuivront jusqu'au 2 février. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous ce midi.
Merci beaucoup.
Merci Claire-Marie Le Guay. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La vie est plus belle en musique, paru chez Flammarion.